Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
En 1805 paraît un guide touristique, le panorama de Paris et de ses environs. Un chapitre est consacré aux arts mécaniques et c'est là qu'est présenté le cabinet de la marine, au Louvre. Ce cabinet est rempli des modèles de tous les vaisseaux, brigantins, galères, etc. munis de leurs agrès. Il y a plusieurs coupes de vaisseaux sur le chantier et tous les degrés de construction jusqu'à la perfection. Voilà ce qu'on peut y lire. Longue histoire que celle de l'exposition des œuvres du musée de la marine. Pour explorer ces collections, mieux vaut laisser la parole aux spécialistes car les marins ne se contentent pas de naviguer. Oui, ils ont beaucoup de choses à dire. Selon le célèbre adage de Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs, c'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
Que se passe-t-il? Le bateau. Milou, qu'as-tu fait?
C'était le plus grand mystère maritime du siècle.
Salut, Moussaillon.
Bonjour, capitaine. Venez par ici.
Je suis un vieil ami d'Henri-Louis Duhamel de Monceau.
Nous avons là une œuvre exceptionnelle, bien sûr.
Et bientôt, le musée de la marine agrandi retrouvera rénové, réparé, reconstitué ces flottes immobiles qui vont sous leur ciel de verre recommencer à cingler à la poursuite des songes de la Pérouse et du capitaine Cook.
Quel magnifique vaisseau!
Quel magnifique vaisseau que ce musée de la marine. Bonjour Vincent Comprendon.
Bonjour Xavier.
Vous êtes le directeur général du musée national de la marine. Oui, magnifique vaisseau à conduire ce musée. C'est énorme. Faut rappeler, hein, le site parisien, il n'y a pas que Paris.
Non, il n'y a pas que Paris. Il y a d'autres sites. Il y en a eu d'ailleurs jusqu'à 16. Aujourd'hui, il y en a 5 autres sites. Il y a Brest, qui est un grand arsenal de la marine hier et encore aujourd'hui. Il y a Port-Louis, qui est à l'entrée de la Rade de l'Orient, dans une magnifique citadelle. Puis Rochefort, où il y a 2 sites différents, dont un site qui est très peu connu, qui est l'ancienne école de médecine navale. La France était le premier pays au monde à avoir créé une école de médecine navale. On en parlera parce que c'est toute l'histoire du combat naval. Et puis Toulon, autre grand port de la France, aujourd'hui le plus grand port de la Marine nationale.
Vous avez le souvenir de votre première visite au musée de la Marine? C'était quand?
Alors c'était, oui, il est toujours évidemment dans ma mémoire, parce que j'en ai fait en fait ma vie, et ma vie professionnelle, je ne dirais pas que se termine, mais se poursuit avec cette extraordinaire aventure depuis 8 ans au musée. Petit, mon papa, qui était dans la marine, qui est décédé, qui a été amiral, m'emmenait petit avec mes autres frères, on était 5 garçons. Il n'y a que moi qui ai bien tourné, et je suis rentré dans la marine, je voulais être pilote dans l'aéronaval, comme papa. Et voilà, j'ai été commissaire de la marine pour une vie très différente et pour une extraordinaire aventure dans ce musée.
Vincent Comprenon, vous publiez Le Voyage en mer et cet ouvrage publié chez Grasset est dédié au lieutenant de vaisseau Édouard Lespinasse. C'est votre oncle, c'est une histoire de famille la marine. Hein.
Oui, c'est effectivement une histoire de famille. Alors là, mon histoire, là, vous me faites rentrer dans mon histoire un peu plus personnelle, puisque finalement je suis le fils d'un pilote de l'aéronaval et le neveu d'un pilote de l'aéronaval. C'était le frère préféré de ma mère et il est mort bien avant ma naissance et donc elle m'a toujours gardé dans ce souvenir de ce frère qu'elle adorait. Et voilà, donc la marine, c'était pour moi. Je me suis jamais posé une seule question dans ma vie. Je voulais rentrer dans la marine. J'y suis rentré depuis 40 ans et j'y suis toujours.
Vous êtes commissaire général de la marine, ça veut dire quoi ça?
Alors le commissaire, c'est très intéressant. Ça a été abordé dans une de vos émissions cette semaine sur la marine. C'est le corps d'officier le plus ancien de la marine. Ça a été les intendants de marine du temps de Colbert, puis ça s'est transformé en commissaire de la marine. Il y en a un par bateau, c'était déjà le cas à l'époque. Au temps de Colbert, il dirigeait la marine. Autant aujourd'hui, un commissaire de la marine, c'est, moi j'aimais bien l'appeler comme ça, la maîtresse de maison du bord. Il s'occupe de tout, sauf des armes.
Voilà, c'est ça. Mais effectivement, l'histoire de la marine, c'est pas simplement une histoire de combat. Et c'est toujours cette réflexion qu'on doit avoir avec l'histoire militaire. Le temps du combat, c'est un temps court. Et puis il y a tout le reste du temps où il faut s'occuper des approvisionnements et des hommes. Clémence Laurent, bonjour.
Bonjour Xavier.
Vous êtes adjointe au chef du projet muséographique du Musée National de la Marine. Vous y travaillez depuis un petit moment. Non mais c'est un projet absolument incroyable autour de ce musée. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Je vais vous poser la question autrement, Clémence Laurent. C'était pas un musée un petit peu vieillot, ce musée de la Marine?
Certains diront plutôt qu'il était dans son jus. Il avait un petit côté désuet qui plaisait beaucoup. Beaucoup de personnes avaient un souvenir assez ému de cet ancien musée. Qu'ils ont pu découvrir avec leur grand-père, leur père, leur famille. Mais c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de rénovation d'ampleur du parcours muséographique, du parcours d'exposition permanent. Et on perdait un peu le fil dans tout ça, on se perdait un peu dans les salles, c'était des boîtes dans la boîte. On n'avait plus tellement aussi cette notion de grand volume de la galerie Daviou, ce que nous a permis de retrouver notamment le projet architectural d'H2O et Snoeta.
Vincent Comprenon.
Oui, il était dans son jus, il était pas endormi, il présentait les choses d'une certaine façon, mais il y a un moment où on arrive, où on constate que tout change. Les enjeux maritimes changent aujourd'hui, on en parle énormément, et c'est d'ailleurs un des objectifs de ce nouveau musée. Et puis il n'y a pas que les enjeux maritimes, il y a aussi les musées. Aujourd'hui, changent beaucoup, ils sont plus interactifs, ils sont en lien avec le public. L'expérience visiteur est au centre d'une visite au musée. On veut que le visiteur soit acteur de sa visite. Et c'était tout l'objet de cette transformation qui a duré 8 ans.
Ben oui, parce que les musées reflètent simplement les attentes du moment où ils existent. Faut un peu les faire vivre, ces musées. Clémence Laurent, on peut parler du site. Nous sommes à Paris, au Trocadéro. C'est quoi ce lieu ?
Alors, le palais de Chaillot, en fait, a une histoire assez ancienne, puisque déjà le palais en soi, le bâtiment... La première version du palais en fait, a été construite en 1878 pour une exposition universelle. Donc, avec deux ailes qu'on a encore aujourd'hui, on a la fin des ailes, et sur la place qu'on connaît actuellement et qui donne cette belle vue sur la tour Eiffel où tout le monde va, en fait, on avait une salle des fêtes. En 1937, nouvelle exposition universelle à Paris, et là, en fait, a été décidé de réemployer le palais de Chaillot de 1878. En fait, il a été coffré, doublé d'une deuxième galerie, dépouillé un peu aussi de toute cette décoration assez hétéroclite, assez Troisième République, donc plutôt avec un décor art déco, plus minimaliste, et resté, voilà. Alors, c'était une construction qui était censée être éphémère, les expositions universelles, on n'était pas censé garder les bâtiments après, mais en fait, ce bâtiment a perduré, et justement aussi commencé à connaître un certain vieillissement des matériaux, le même problème qu'on rencontre aujourd'hui le palais de Tokyo et le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui datent de la même époque.
Ben oui, parce qu'il faut rénover le lieu,
Le lieu est tout à fait important. C'est une très longue histoire, l'histoire du musée de la Marine, puisque je pense qu'on va y revenir. Il est né sous Louis XV, il est resté au Louvre jusqu'à justement 1936-37. Le Louvre souhaitant prendre la place du musée de la Marine, puisqu'il a besoin d'espace. Et donc, au moment où on a construit le nouveau palais de Chaillot, on s'est dit, tiens, on va mettre le musée de la Marine à côté du musée de l'Homme. La Marine s'est installée un tout petit peu, très timidement avant la guerre. Il a été déménagé évidemment pendant la guerre et c'est revenu en 1943, ce qui est une date intéressante parce qu'on est en pleine guerre de la Deuxième Guerre mondiale et la marine revient à ce moment-là.
Ça veut dire qu'il y avait une volonté de propagande, de mettre en avant la marine à ce moment-là ?
Alors c'est un mot compliqué aujourd'hui, la propagande. Alors peut-être qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on en parlait plus facilement. On était juste après un épisode très très difficile pour tout le monde, pour les marins, mais pas seulement, aussi pour la France. On était après le sabotage de la flotte à Toulon en 1942, et la marine, commandée donc par l'amiral Darlan, a souhaité redonner de l'éclat pour dire, voilà, la marine, c'est pas que le sabordage, elle a une grande histoire, la France est une grande puissance navale, et voilà, et a organisé un salon dès 1943, un salon de la marine.
Voilà, ce musée de la marine en 1943, on comprend bien cette histoire-là, qui nous conduit juste après-guerre, quand le musée ouvre, parce que c'est là vraiment que l'histoire commence véritablement et la nostalgie est très présente.
Beau temps de la marine en bois, beau temps où les corvettes et les bâtiments de haut bord timbrés aux armes de France couraient la grande course sur toutes les mers du globe. Mais où sont les voiliers d'antan ? Les voici retrouvés. Après un deuil de plusieurs années, les collections du musée de la Marine, célèbres depuis leur création sous Louis XIV, se reconstituent. Dans un atelier secret du palais de Chaillot, de patients techniciens, successeurs des charpentiers de Colbert, ont remis en chantier les modèles en petit des vaisseaux des Saint-Rans, comme on disait au temps de Jean Bart. Et bientôt, le musée de la Marine, agrandi, retrouvera rénové, réparé, reconstitué ces flottes immobiles qui vont sous leur ciel de verre, recommencer à cingler à la poursuite des songes de la Pérouse et du capitaine Cook.
En 1946, le journal des actualités françaises qui évoque le musée de la marine. Vincent Comprenon, mais oui, dans ce musée de la marine, il y a tout ce que l'on entend là. C'est le rêve qui est là, c'est ce rêve du lointain géographique, mais du lointain aussi dans le passé avec ses voiliers. Les collections sont très riches, ça nous conduit loin.
Elles sont très riches, elles sont très anciennes. Alors, on a coutume de dire que les collections du musée de la Marine sont parmi les plus belles du monde. Moi, je suis directeur du musée de la Marine et je dis que ce sont les plus belles du monde. Le musée de la Marine est le deuxième musée le plus ancien de l'histoire dans le monde. Le premier, c'est Saint-Pétersbourg, à quelques années près simplement. J'ai été le voir il y a 2 ans, on est vraiment le plus beau. Et on montre 1 million d'œuvres qui sont vraiment extraordinaires. C'est le rêve, j'ai envie de dire, c'est l'émerveillement. Mais j'ai un autre mot peut-être qui qualifie encore plus, c'est l'émotion. Et j'ai vraiment souhaité, dans ce projet de rénovation du musée, que l'on garde ce lien d'émotion avec une œuvre. Quand on voit un beau tableau, quand on voit une sculpture navale, quand on voit une maquette, tous ces objets de navigation, ces sextants, ces octants, il y a une émotion face à cet objet qui a une histoire. Et je me souviens très bien, au début, on me disait « Oui, il faut que tu mettes au goût du jour pour les jeunes, il faut que tu mettes de l'audiovisuel, il faut que tu mettes du numérique. » Et moi, qui n'étais pas un grand spécialiste, j'ai résisté et je suis bien content. Aujourd'hui, on a peu, mais quand même quelques aides à la visite, mais pas trop. Et puis avec une grande crainte derrière qui était que quand ça tombe en panne, c'est foutu. Et montrer des œuvres de cette grande histoire maritime de la France, de cette grande histoire de la puissance navale, mais écoutez, c'est un élu extraordinaire. Et les publics, depuis 4 jours de réouverture, sont actuellement très heureux justement de retrouver ce lien authentique d'émotion.
Oui, retrouver l'émotion, l'œuvre, magnifique, sublime, l'objet, c'est toujours de l'émotion de voir l'objet utilisé sur un navire, mais enfin, faut comprendre comment ça marche. Hein. Clémence Laurent, un sextant, c'est bien joli, mais alors, faut comprendre comment ça marche pour une certaine médiation.
Bah, c'est sûr qu'on a des collections qui sont très techniques, et on sait qu'une des frustrations des visiteurs de l'ancien parcours, c'était de ne pas comprendre ces objets, de ne pas pouvoir les manipuler. Il y avait une vraie frustration, parce que forcément, objet patrimonial, il faut, pour pouvoir les conserver et pour continuer de pouvoir les regarder, les contempler, il faut vraiment les protéger. Et donc a été développé pour certains objets assez techniques de nos collections, des dispositifs de médiation en lien avec le service de médiation du musée pour apprendre, typiquement le sextant, avec ce système de miroir, aligner l'astre avec la ligne d'horizon pour faire après de très très savants calculs qu'on épargne aux visiteurs. Mais au moins, ils comprennent et ils peuvent manipuler enfin ces objets.
Alors ce qui est extraordinaire dans cet espace consacré aux objets de navigation, c'est cette dimension historique, toujours passé, le présent et l'avenir. Le présent, c'est Galiléo, et donc on a aussi un objet du satellite Galiléo qui est aujourd'hui le GPS européen. Mais je voudrais juste revenir un petit peu à l'histoire. Aujourd'hui, on se situe avec son GPS, on appuie sur un bouton, on sait toujours où on est. Imaginez, il y a plusieurs milliers d'années dans le Pacifique, ils traversaient le Pacifique des milliers de kilomètres avec leur culture de la mer. Les Polynésiens sont des gens incroyablement liés à la mer et ils avaient comme seul instrument de navigation une carte faite de feuilles de pandanus, mais ils savaient lire en même temps le ciel, les étoiles, la houle, la couleur de l'eau, la façon dont la mer changeait de couleur. Et ils traversaient le Pacifique. Et voilà, ils ne faisaient pas mieux que nous aujourd'hui avec notre GPS. C'est ça qui est extraordinaire qu'on montre dans le musée de la Marine. Il y a une évolution superbe. Il y a une autre histoire extraordinaire, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. C'est le calcul de la longitude, l'heure en mer, qui est une histoire extraordinaire. On est arrivé très tardivement à avoir la certitude d'une heure exacte à la mer. Et donc, il y a une histoire avec les Britanniques, Harrison, le français Berthoud, qui était d'ailleurs franco-suisse, puis ensuite Abraham Breguet, qui nous ont laissé d'ailleurs des tas de souvenirs et des tas d'objets dans le musée. Voilà, l'heure en mer, ça a été des siècles peut-être de recherche pour avoir exactement l'heure mer qui permet de se situer précisément sur le globe. Et voilà, ça fait pas si longtemps. Aujourd'hui, on se rend pas compte. Peut-être que les éditeurs qui connaissent pas toute cette histoire, voilà, ils regardent leur téléphone, GPS, on sait toujours maintenant au mètre près où on est, mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Oui, parce qu'il fallait connaître. Bon, l'heure du départ, ça allait, mais faire marcher une horloge sur un navire qui bouge tout le temps, c'est impossible. Et réussir à maintenir une heure stable sur une longue distance sur un navire qui bougeait sans arrêt, voilà, c'est une aventure. En fait, cette histoire que nous évoquons, celle qui se trouve dans le musée de la marine, ce sont 1000 aventures. Bah, est-ce que vraiment, alors, il y a le côté, le souffle épique, partir sur les mers, mais c'est vraiment ça, on le retrouve. Et l'aspect scientifique est aussi une aventure. Vous le vivez comme ça ?
Alors moi, je le vis plus que comme ça, parce que c'était toute ma vie. J'ai navigué une vingtaine d'années autour du monde. J'ai fait à peu près 4 tours du monde, donc j'ai plus de 100 escales. Donc ça a été vraiment ma vie. Et toute l'idée de ce musée rénové, c'est d'embarquer le visiteur, de l'immerger dans une nouvelle vie, cette vie de marin. Et le parcours, on l'a appelé le voyage en mer.
Et c'est le titre de votre livre aussi.
Oui, alors évidemment, il y a un petit clin d'œil. Je voulais le garder pour moi, mais Xavier, voilà, vous le dites à tous nos auditeurs, et je suis content que ça soit dit d'ailleurs comme ça. Le voyage en mer, il est fait d'escales, il est fait de traversées, on veut faire vivre une aventure maritime, on veut sortir nos visiteurs de leur monde quotidien, on rentre au musée, on est accueilli par un ciel étoilé, qui est aussi la couleur du plancton dans le Pacifique la nuit, c'est extraordinaire. Voilà, on leur fait changer de monde, ils vivent une aventure maritime merveilleuse.
Cette aventure maritime-là, c'est toute cette muséographie. Clémence Laurent.
Le bruit de la vague.
Et la vague est là.
Eh oui. En fait, avec la rénovation architecturale, on a pu retrouver les très grands volumes d'origine. Et les scénographes, l'agence britannique Castleman, oui, ce sont des Anglais qui ont refait le musée national de la marine, mais on a de l'humour dans la marine, donc tout va bien.
C'est la Royal Navy, l'ennemi.
Exactement, la perfide Albion. Mais qui nous a quand même fait un beau musée, donc c'est la réconciliation, ça va. En fait, nous ont proposé de garder ces grands volumes, de ne pas refaire des boîtes dans la boîte, mais malgré tout de marquer le parcours avec de grands gestes scénographiques, donc qui sont de grandes structures, on en a 3 en tout, la coque de bateau à l'entrée du musée, un immense portique de conteneurs avec un conteneur suspendu assez impressionnant.
Ah oui, donc c'est très contemporain, le porte-conteneur, oui. On voit bien ces grands portiques qui servent.
Exactement,
à soulever les conteneurs.
Avec des conteneurs empilés sur les côtés qui sont des vitrines, donc petite surprise aussi, et la vague. Et donc en fait, ce sont ces 3 grandes structures permettent d'une part de scander le parcours de visite pour les visiteurs, mais aussi de redonner une dimension monumentale à la mer. On parle autant du littoral avec le port que de la haute mer avec la vague. Parce que typiquement, la coque de bateau à l'entrée, ça permet aussi de montrer à quel point nous sommes tout petits en fait par rapport à la construction navale, surtout qu'on présente des modèles réduits. Donc voilà, au moins on a tout de suite cette impression de gigantisme, et d'immersion. Parce que ça aussi, c'était très important dans le projet de rénovation.
Vincent Comprendon.
Oui, c'était très important cette notion d'immersion, mais en fait, il y a un message derrière, il y a un objectif. Il ne s'agit pas seulement de se sentir en mer, il ne s'agit pas seulement d'émotion, il ne s'agit pas seulement de rêve et d'émerveillement. Il s'agit aussi d'être sensibilisé à la mer. Ce qu'on veut, c'est faire sentir la mer pour bien montrer qu'aujourd'hui, le monde se maritimise de plus en plus. Je ne sais pas si nos éditeurs savent tout ça, mais 95% de ce qu'ils consomment quotidiennement est transporté par la mer. 99% des communications, des liaisons de téléphone, internet passent par des câbles sous-marins et pas du tout par des satellites. Et ce sont deux exemples un peu frappants pour bien transmettre à nos visiteurs ce message que la mer est l'avenir et que donc il faut la protéger. Voilà, c'est une sensibilisation générale qui passe par la scénographie dont vient parler de Clémence, qui passe par ces sensations de mer qui sont visuelles, qui sont sonores, qui sont aussi olfactives, puisqu'on a aussi inventé une identité olfactive. Il y a un parfum du musée qui s'appelle Sillage en mer, et on travaille aujourd'hui à une identité sonore. Voilà, tout ça pour en faire un autre monde, mais derrière, c'est bien pour dire, attention, la mer est l'avenir, prenez-en soin, et c'est un message évidemment aux jeunes générations, mais pas que. On voit bien dans les premiers visiteurs du musée depuis vendredi que les plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, les plus anciens, ils sont tous passionnés. On a même un parcours 0-3 ans, donc vous voyez, on veut commencer jeune.
«
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
La marine au musée, histoire de collection. Collection, mais bien sûr, ces œuvres sont exposées, on l'a bien dit, au site parisien, Palais de Chaillot, Trocadéro et les autres sites un peu partout. Clémence Laurent, elles représentent quoi ces collections en volume? Ça doit être absolument considérable. Il y a tant et tant d'années d'histoire de ce musée.
Ah bah oui, puisqu'on commence l'histoire des collections en tout cas en 1748 avec un don à Louis XV par Duhamel du Monceau d'une collection de maquettes, de machines portuaires et de modèles réduits de bateaux. Donc cette histoire commence au milieu du XVIIIe siècle. Se poursuit aujourd'hui avec la nouvelle la réouverture du musée. Et cette collection, en fait, on a commencé avec des modèles et des maquettes et petit à petit a grandi aussi. C'est diversifié, c'est ouvert vers tout ce qui va être instruments de navigation, beaux-arts aussi, avec une belle collection de peintures, de sculptures, sculptures navales, notamment les figures de proue, forcément. Tout ce qui est ethnographique également. Donc voilà, c'est vraiment un musée avec une collection plurielle qui a été un musée d'histoire technique, un musée d'art aussi, un musée d'histoire scientifique, ethnographique. Et c'est un peu ce qu'on a cherché aussi à présenter aux visiteurs dans ce nouveau parcours, vraiment tout un panel de ces collections. Et le directeur parlait du voyage en mer, ce parcours qui est fait d'escales et de traversées. On a les escales qui sont vraiment des espaces dédiés à des typologies très spécifiques de nos collections, les modèles, les instruments de navigation, la sculpture navale et la série des vues de port de France de Joseph Vernet. Et entre ces escales, les traversées, qui sont des espaces plus amples, où là, c'est moins une typologie de collection qui prédomine, mais plus un fil narratif. Et donc, la première sur les routes de la consommation en passant par le Havre, donc très ancrée dans le contemporain. Une qui va plus mobiliser l'émotion autour de la vague avec Tempête et Naufrage. Et la dernière, forcément, qui est le cœur historique aussi du musée, l'histoire de la marine française depuis Richelieu jusqu'à aujourd'hui.
J'entends le vocabulaire que vous utilisez. Vous parlez de modèles et de maquettes. C'est quoi la différence?
Alors, modèle réduit, c'est vraiment ce qu'on on entend par modèle réduit, tout ce qui est reproduction à échelle réduite de bateaux, de navires, voilà. Alors que les maquettes est une appellation un peu plus large qui va plutôt toucher tout ce qui est machine portuaire, c'est-à-dire reconstitution miniature de machines portuaires, de bateaux en manipulation, par exemple l'abattage en carène, voilà, pour montrer comment est-ce qu'un bateau se comporte selon différentes manœuvres. Donc les modèles vraiment associés, c'est le bateau. La maquette, c'est un peu plus générique.
Duhamel du Monceau, au XVIIIe siècle, lui, avait accumulé pas mal de modèles et de maquettes.
Je suis un vieil ami d'Henri-Louis Duhamel du Monceau. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, on reconnaisse enfin l'intérêt de ses résultats scientifiques.
On peut dire que Duhamel a fait beaucoup avancer l'agriculture, beaucoup avancer certaines pratiques dans différents métiers. Il s'est intéressé à la météorologie, il a fait beaucoup pour la marine, mais vous voyez, il y a une diversité telle que quand on ne peut pas étiqueter quelqu'un en disant « c'est l'homme de ceci », les dictionnaires hésitent un peu plus à le mettre dans leur colonne.
Ça a été un des plus brillants savants de son siècle. En 1750-1760, il était traduit en anglais, il était traduit en allemand. Enfin, ses œuvres scientifiques, notamment sur la marine, sur l'agronomie, sur la botanique, et il est tombé dans l'oubli par la suite, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas marqué complètement la méthodologie des sciences, mais de toutes les sciences.
Évocation du tricentenaire d'Henri-Louis Duhamel du Monceau. Nous étions en l'an 2000, c'était le professeur Hubert Curien, vice-président de l'Académie des sciences, qui a été ministre de la Recherche, et Jean-Louis Gatineau, artiste peintre, qui évoquait ce personnage Duhamel du Monceau. Disons-le, Duhamel du Monceau, qui est vraiment partie prenante de cette histoire maritime, quand il collectionne les maquettes et les modèles, ça a une vraie vocation pour ses contemporains. Il ne travaille pas en soi pour l'histoire, hein. Ça a une utilité pour les élèves qui doivent ensuite devenir ingénieurs et construire des bateaux.
Oui, parce qu'il a en même temps créé une école, et c'est le début de la construction navale plus scientifique qu'avant, puisque les modèles dont parlait Clémence avant servaient en fait à a modelé un bateau pour le construire ensuite à l'échelle 1. Et ces modèles-là servaient à ses élèves. Et c'est bien l'échange qu'il a eu, le deal qu'on dirait aujourd'hui avec Louis XV. On imagine la scène, hein, Duhamel du Bonceau appelant Louis XV. « Allô, sire, ici Duhamel, je vous propose un deal. Je vous donne ma collection de maquettes et vous me donnez une salle au Louvre. » Et c'est un peu top là, et c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est le début de l'histoire. Donc nous, on aime beaucoup Louis XV au musée. On dit toujours que c'est pas un grand roi qui s'est intéressé à la marine, mais si. Il a accepté ce deal de Duhamel de Monceau, il a créé l'Académie royale qui était à Brest, et puis, ce dont on a parlé tout à l'heure, il a commandé cette vue des ports de France de Joseph Vernet, qui sont... un peu et le plus grand trésor du musée de la marine.
Bah, c'est sensationnel, hein. Il y a combien de tableaux ?
Alors, il y en a 13 au musée. Il en a réalisé 15 en tout. Il en restait 2 au Louvre, puisque le musée était tout au Louvre. Il en restait 2 comme témoignage d'une époque de l'histoire de l'art. Il y en a 13 qui ont été restaurés complètement dans un atelier à Versailles de spécialistes avec le Louvre. Ils sont absolument sublimes. Ils n'avaient jamais été restaurés aussi complètement depuis Louis XV. Et moi, quand je suis arrivé au musée, j'étais pas un grand amoureux, voilà, j'étais un amateur d'art, mais je suis devenu amoureux de Vernet. Et c'est extraordinaire, ces tableaux. On y voit toute la vie d'un port, la vie sociale, la vie maritime, la vie nautique. Ça raconte plein de choses, et on raconte ça à nos visiteurs au musée.
Quand Duhamel du Monceau donne sa collection au roi Louis XV, nous sommes en 1748, il y a cette salle au Louvre, la salle de marine Clémence Laurent. C'est le début, on peut dire, de l'histoire du musée de la marine.
Oui, et d'autant que à ce moment-là, c'est vrai comme le disait le directeur, ces modèles et ces maquettes étaient vraiment à destination des élèves ingénieurs constructeurs, donc vraiment dans un optique de formation technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, le maître charpentier conçoit un navire à partir d'une vingtaine de mesures, de proportions et de gabarits qui se transmettent de génération en génération, donc un vrai savoir-faire, mais qui n'est pas un savoir technique théorique. Alors il y a bien des ordonnances à partir de la fin du XVIIe siècle qui prescrivent aux intendants des arsenaux de produire des modèles réduits et des plans a posteriori pour conserver la mémoire architecturale d'une coque, d'autant que ces navires potentiellement sont voués à disparaître corps et biens au cours de batailles navales. Et donc voilà, donc au départ on est plutôt dans un savoir-faire qui se transmet. Et en fait, à partir du XVIIIe siècle, on assiste à un processus de rationalisation et d'abstraction de la construction navale avec des plans qui sont créés a priori et qui servent de base pour construire le navire, d'autant qu'on a aussi toute une rationalisation de la formation des constructeurs de navires. On passe du maître charpentier à l'ingénieur constructeur avec la création de l'école de Paris par Duhamel du Monceau en 1741. Et justement, pour parfaire cette formation de ces nouveaux ingénieurs, Duhamel du Monceau lègue sa collection à destination de ses ingénieurs, donc en plus situé au Louvre, donc juste à côté, pour qu'ils puissent vraiment venir voir en 3 dimensions, vraiment appréhender des bâtiments qu'ils auraient un jour à construire, comprendre exactement comment tout ceci s'enchasse et se comporte. Voilà. Donc c'est vraiment une finalité technique au
oui,
départ.
Ça évite de se déplacer pour aller jusque dans les ports. Vincent Contredon.
Alors, ce qui est très intéressant, d'abord pour compléter ce que dit Clément, c'est que les visiteurs peuvent voir une partie de cette collection de Duhamel du Monceau. Donc on se retrouve en 1748, admirés, elles sont absolument sublime, et là on ressent vraiment une vraie émotion. Mais ce que je pourrais rajouter sur les modèles, c'est que leur utilisation a évolué dans le temps. Elles sont devenues après des modèles d'instruction. Et on a une très grande maquette qui s'appelle le Royal Louis, qui est la plus grande du musée et qui est très bien exposée, qui a été aussi parfaitement restaurée, pour apprendre aux élèves officiers de marine comment on manœuvre, comment on combat, comment on vit à bord. Et on la voit très bien, c'est une maquette qui fait 5 mètres de long. Alors on ne peut pas jouer avec parce qu'on la regarde un petit peu de loin parce que tout ça est fragile. Mais c'est passionnant de voir l'évolution de l'utilisation de ces modèles. Et ça a encore évolué après, notamment avec Napoléon Ier. Napoléon Ier, qui était proche de la marine et de la mer, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on dit. Napoléon la mer, c'est un vrai sujet. Ça pourrait faire peut-être l'objet d'une autre émission.
On en a parlé, mais on en parlera sans cesse.
C'est passionnant. Et lui, il s'est fait une collection de prestige.
Au Trianon.
Voilà. Il l'a installé au Trianon. Et il s'est fait faire. Enfin, d'abord, il a été prendre des maquettes les plus belles là où il en était, en ébène, en ivoire, certaines en argent. Et il s'est fait. Il a demandé à ce qu'on lui montre une représentation de tous les bateaux français de l'époque. Alors, est-ce que c'était dans son rêve d'envoyer l'Angleterre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, modèle de construction, modèle d'instruction, modèle de prestige, et on voit aujourd'hui la passion de beaucoup de modélistes. L'association des amis du musée de la marine est constituée de beaucoup de modélistes. Il y a des gens passionnés, il y a une revue qui s'appelle Neptunia. Voilà, c'est toujours un sujet d'aujourd'hui.
Et puis ces maquettes, ces modèles, je me corrige, hein, on se comprenne bien, on parle des modèles réduits de bateaux, demeurent très fragiles. Alors bien sûr, quand il y a un cabot qui passe, c'est la catastrophe.
Que se passe-t-il? Le bateau. Milou, qu'as-tu fait? Le voilà cassé maintenant. Le mât du milieu s'est brisé. Heureusement, ce n'est pas grave. Le malheur sera vite réparé. Ah, cette fois, c'est le capitaine.
Salut, Moussaillon.
Bonjour, capitaine. Venez par ici. Il y a une petite surprise qui vous attend.
Une surprise? Oh, quel magnifique vaisseau. Mais, tonnerre de Brest, où avez-vous trouvé ce bateau?
Où? Au vieux marché, pourquoi?
Tonnerre de Brest. Regardez ce tableau.
C'est vous, ça?
Non, c'est un de mes ancêtres, le chevalier de Haddock, qui a vécu sous le règne de Louis XIV. Mais regardez plus près. Examinez le vaisseau qui se trouve à l'arrière-plan.
Il ressemble fort à celui que vous avez vu chez moi, ne trouvez-vous pas?
Mais justement, c'est le même. Exactement le même, n'est-ce pas extraordinaire?
Celui-ci porte un nom. Regardez là, en tout petit caractère. La licorne.
La licorne, le secret de la licorne. Tintin, le capitaine Haddock et Milou qui a tout cassé. Mais enfin bon, c'est grâce à lui que l'aventure commence. C'est l'adaptation radiophonique à retrouver hein, sur France Culture, l'appli Radio France. C'est sensationnel de retrouver Tintin avec le secret de la licorne. D'ailleurs, on voit bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, le rapport à l'enfance, tout ça, corsaire, flibustier. Mais fragilité, Clémence Laurent, ces œuvres, il faut les exposer, mais il faut leur donner un sens. L'idée n'est pas d'exposer toutes les œuvres du musée, c'est de raconter quelque chose.
Surtout qu'en fait, on n'aurait pas la place pour toutes les exposer. Donc, on a soigneusement choisi avec les équipes du musée quelles œuvres présenter selon ce qu'on voulait aborder. Mais ce qui est sûr, en tout cas, pour la première escale, qui est l'escale dédiée au modèle réduit, ont été choisis, notamment avec Eric Ritz, les plus beaux modèles, en tout cas, de nos collections. Et l'enjeu, alors d'une part de commencer par les modèles, puisque comme je le disais, c'est les collections du musée ont commencé par un don de modèles et de maquettes, donc c'est un peu aussi en écho à l'histoire de nos collections, et aussi de montrer, comme le disait le directeur tout à l'heure, les différents usages qu'ont pu avoir les modèles à travers l'histoire, donc fonction technique, comme on l'a dit, fonction pédagogique avec le modèle d'instruction, fonction de prestige avec la collection Trianon rassemblée par Napoléon Ier, fonction scientifique aussi, puisqu'on a une très très belle collection qu'on appelle la collection Paris, qui a été créée par l'amiral Paris. Alors on pourrait pareil en faire une émission entière sur cet homme-là, mais qui a voulu vraiment conserver la mémoire de culture nautique, notamment extra-européenne, à la fin du 19e siècle. Donc il avait pu parcourir, il était officier hydrographe, il a fait trois circumnavigations, donc autour du monde, et au cours de ses voyages, il a pu observer plusieurs cultures nautiques étrangères aux Européens. Et il a patiemment observé, fait des relevés architecturaux, fait des plans sur place, a fait des croquis aussi, des aquarelles, de très très belles aquarelles, des bateaux en fonctionnement, et revenu à Paris, a demandé à l'atelier, parce qu'on avait un atelier de maquettistes qui était intégré au musée, a demandé à cet atelier de fabriquer des modèles pour conserver la mémoire de ces cultures-là, vouées à disparaître du fait de la colonisation, l'industrialisation, et il craignait vraiment ça. Et donc vraiment, à ce moment-là, la collection de modèles devient, c'est un des pères de l'ethnographie nautique, l'amiral Paris, et donc devient un lieu de conservation de cette mémoire. Donc vraiment dans une visée scientifique, mais aussi patrimoniale.
Juste un mot sur l'amiral Paris, ça a été un directeur qui est resté le plus longtemps au musée, il est resté 23 ans directeur, et surtout il y a eu une petite histoire dans l'histoire, il était embarqué avec Dumont d'Urville quand ils sont allés à la recherche de la Pérouse.
Parce que ce sont des histoires humaines incarnées. Une promenade dans les réserves du musée se révèle une incroyable aventure. Je m'attendais à pénétrer dans les caves du château de Moulinsart, celui dont le capitaine Haddock prend possession dans Le Secret de la Licorne. C'est ce que vous écrivez, Vincent Compredon, dans Le Voyage en mer chez Grasset. Parce que il y a toutes ces réserves aussi, on le dit, des œuvres. Alors, on a une estimation des œuvres, si on voulait cumuler tout.
Tout, je crois que c'est entre 30 et 40 000.
30 et 40 000, et ces réserves.
Voilà. Moi, j'ai un petit chiffre aussi, le chiffre du directeur, qui en fait un petit peu plus, parce que ça dépend toujours de la façon dont on compte. Et moi, je suis très fier de l'histoire, évidemment, et des collections. Moi, je dis plutôt 60 000, mais il y a un petit combat entre conservateurs, 30, 40, et moi, je dis toujours 60, parce qu'on est vraiment le plus beau musée maritime du monde.
Et ces réserves, elles sont encore riches d'objets, de modèles, de maquettes. Bien sûr, on ne peut pas tout exposer, et ça n'aurait pas vraiment d'utilité en soi, ce qui permet d'ailleurs d'en restaurer, d'en sortir régulièrement.
Oui, en plus, le parcours est constitué de façon semi-permanente, justement pour pouvoir changer, un peu comme une exposition temporaire, tous les 2-3 ans, des objets pour renouveler un petit peu le parcours et qu'on ne reste pas des dizaines d'années avec le même parcours. Et puis autre chose sur les réserves, c'est intéressant, c'est qu'on continue évidemment à acquérir. C'est une des missions du musée. Voilà. Si on n'avait pas acquis depuis Duhamel du Monceau, on aurait 20 modèles. Aujourd'hui, on en a 60 000. Alors, il y a une histoire extraordinaire, la façon dont ça a été récupéré, parce que la Révolution française est passée par là. Donc, les biens des immigrés, toutes les collections privées, il y avait beaucoup de cabinets de curiosité à l'époque. Tout ça a été récupéré, nationalisé pendant la Révolution française. Et puis après, au gré de ce qu'on veut dire dans le musée, on acquiert des œuvres et tous les conservateurs aujourd'hui sont en permanence calés sur ce qui se vend, sur ce qui s'achète. Et on a aussi beaucoup de dons. Je vais prendre un exemple sur les acquisitions importantes. Aujourd'hui, on parle des enjeux de l'avenir aussi, puisqu'on veut donner cette idée, cette sensibilisation de l'importance de la mer à l'avenir. Et sous Louis XV, on n'avait pas grand-chose à montrer quand on parlait d'environnement. Je suis pas certain que Louis XV s'intéressait à la fonte des glaces, à la fonte des glaciers, au plastique en mer, à la pollution. Donc voilà, dans nos collections, on a peu d'objets. Donc on en a fabriqué quelques-uns dans le parcours, mais on est extrêmement attentif et on suit ça comme le lait sur le feu, pour acquérir, augmenter, enrichir ses collections et continuer d'intéresser et de sensibiliser nos visiteurs.
Oui, parce que, question environnement, les marées noires sont évoquées, on le voit bien. Et ce n'est pas qu'un musée d'une histoire figée, c'est une histoire comme toute histoire qui se construit sans arrêt, Clémence Laurent. On a l'évocation du contemporain avec le canot de sauvetage, avec le sous-marin. On est au plus près de ce qui se passe aujourd'hui et même avec l'intervention dans des bornes où on les voit apparaître de manière filmée, des acteurs du monde de la mer d'aujourd'hui.
Oui, c'était un des enjeux aussi de cette rénovation, c'était vraiment d'incarner le propos et de vraiment donner une dimension humaine, de proposer aux visiteurs d'aller aussi à la rencontre de ces professionnels de la mer. Et un des moyens qui a été proposé a été d'aller interviewer ces professionnels de la mer. Et donc on a un docker, un pêcheur, une skippeuse, un capitaine de paquebot, une sauveteur en mer, une archéologue sous-marin et une timonière de la Marine nationale.
Je me souviens, à l'âge de 10 ans, à bord du bateau de mon père, quand il m'embarquait pour la première fois, j'étais comme vraiment un gamin qui était émerveillé de voir les cargos passer à 50 mètres, les mouettes me mettre à plat ventre sur le pont, envahi de poissons, quoi. L'odeur du poisson, l'ambiance, cet air pur, tout ça, je me suis dit, Jérôme, tu vas faire marin pêcheur et tu vas changer ce métier-là dans le bon sens. Tout est magique en mer. Sincèrement, le métier est dur, faut faire attention, mais il s'est vraiment modernisé, quoi. Moi, j'ai décidé toujours de faire une pêche durable et responsable.
Voilà, Jérôme, pêcheur à Port-en-Bessin, dans le Calvados. Normandie, fort et vert, toujours.
Et par ailleurs, vice-président de la station de sauvetage en mer de Port-en-Bessin. C'est comme ça qu'on l'a rencontré, en fait. Il est venu avec le président de la station pour faire don d'un ancien pavillon d'une société de sauvetage, les hospitaliers sauveteurs bretons. Et en fait, en lui présentant le parcours, on lui a parlé de la pêche, qu'on voulait aborder la pêche, etc. Et du coup, il nous a dit « je suis pêcheur ». Et on l'a recontacté après pour lui demander s'il était d'accord pour être interviewé et prendre place dans le nouveau parcours du musée. Et voilà, donc des membres de l'équipe sont allés à sa rencontre, ont embarqué avec lui sur son chalut. Voilà, donc c'était une belle rencontre. Et par ailleurs, on parlait d'acquisitions, de nouvelles acquisitions. Grâce à cette rencontre, on a aussi pu faire entrer dans nos collections un ciré de pêcheur. Donc en plus, qui a vraiment sa propre histoire, parce qu'on voit que sur la vareuse a été dessiné tout un ensemble de motifs, un peu comme des tatouages, mais directement sur la vareuse. Donc quand on l'a récupérée, elle était aussi bien dans son jus, hein, ça sentait l'iode, ça sentait la mer, on avait encore des écailles de poisson. Donc elle a été intégralement restaurée et aujourd'hui elle est présentée juste à côté, justement, de la figure de Jérôme.
Et ça sent plus le poisson et il n'y a plus d'écailles, donc nos éditeurs se rassurent. J'aime bien ce sujet parce que ça montre bien tous ces témoignages de métier, que c'est plus seulement un musée d'histoire, mais un musée de société. Et c'est important que tous nos futurs visiteurs puissent trouver peut-être leur vocation. Moi, je voulais être aussi pêcheur, je voulais rentrer dans la marine, mais en fait, je voulais être en mer. La marine nationale, j'ai pu rentrer et j'en suis bien heureux. Mais le nombre de gens qui viennent aujourd'hui me voir en disant « Ah, je suis venu avec mon grand-père, je suis venu avec mon père », c'était assez masculin à l'époque. Aujourd'hui, on féminise beaucoup plus nos visiteurs et on va les chercher. Des vocations sont nées au musée. Et c'est la vocation de commandant de paquebot, de la marine marchande, de la marine scientifique, de la marine de pêche, évidemment de notre grande marine nationale, qui est une des plus grandes marines nationales du monde.
Et vous faites bien de le souligner, c'est une histoire genrée également. C'est-à-dire que les femmes sont très présentes au musée, alors de plein de manières. C'est vrai qu'il y a la figure de la femme du marin qui attend en mer, de la mère qui pleure, et on le voit bien sur des représentations sublimes de ces marins bretons avec leurs femmes, leurs mères qui attendent. Et Clémence Laurent, parfois, eh bien, on est étonné parce que vous avez parlé de ce ciré, de cette vareuse, et on peut trouver un corset de femmes. Et là, c'est toute cette réflexion sur le musée de la marine qui est en réalité un musée de la société, mais qui couvre l'ensemble du territoire. Pourquoi un corset ?
C'est justement dans la traversée qui est dédiée aux routes de la consommation qui a pour but vraiment de montrer à quel point nous, consommateurs, même si on vit loin de la mer, pas sur les littorales, on reste au carrefour de milliers de flux maritimes dont on ne se rend pas forcément compte. Si on boit le café aujourd'hui à la terrasse, c'est qu'il est venu de très très loin en porte-conteneur. Enfin voilà. Et même au 19e siècle, c'était déjà le cas, notamment avec la chasse aux cétacés. Tout était bon dans la baleine. Les fanons de baleine servaient notamment à faire des corsets, des ombrelles. L'huile de baleine servait à faire des fixateurs de parfums. Voilà, donc c'est vraiment pour montrer que même dans cette perspective aussi historique, pour contextualiser ce qui est abordé dans le parcours, dans une perspective historique, parler de la chasse aux cétacés au 19e siècle, c'est aussi montrer que dès le 19e siècle, on avait déjà des modes de consommation directement liés avec la mer.
J'aime bien ce sujet de la féminisation ou de la place des femmes. À part ce corset qui est superbe, qui est unique. Voilà, moi j'ai appris étant au musée, le musée Galliard, oui. Et tous les gens que je vois, parce que j'adore me promener un peu comme Louis XI, se promener incognito. Je regarde les gens et puis parfois je leur parle en disant tiens, qu'est-ce qui vous intéresse? Donc moi aussi j'ai découvert ces baleines qui venaient d'une baleine. Et on aborde un autre sujet, c'est la voile. Il y a toute une partie sur la plaisance, parce que c'était important de faire des signes, de montrer qu'on s'intéressait aussi beaucoup à la plaisance et à la course au large. C'est la place des femmes dans la voile. On a des portraits sublimes, je crois que c'est mon portrait préféré, d'une femme à la barre en pleine tempête, ça doit être début du 20e, qui montre justement cette évolution à partir de la Société des Régates du Havre. Et puis, on donne une place particulière à Virginie Herriot, notre grande championne olympique de voile en 1928, à qui on rend un hommage appuyé.
Oui, parce que faut rappeler que ce monde marin, c'est un monde dangereux. On le voit bien à l'espace qui est consacré aux tempêtes, Clémence Laurent, avec ces tableaux absolument sensationnels. On est embarqués, ils sont géants, mais il y a aussi ce goût, cette mode dont on est héritier. La tempête, avec un jeu de va-et-vient entre les représentations du passé et les représentations beaucoup plus contemporaines.
En fait, avant la vague, donc avant la tempête, d'une certaine manière, on a un espace où on présente un ensemble de tableaux, de très grandes toiles en effet, pour montrer quel imaginaire de la mer s'est cristallisé dans nos représentations et montrer aussi à quel point on est encore héritier de cet imaginaire lancé par les romantiques, qui embarque le visiteur à la suite de Géricault et du radeau de la Méduse, qui embarque le visiteur, le spectateur, au plus près du drame. Avant, avec Vernet notamment, où Jean-François eut son élève, on est plutôt en bord de mer. Ce sont des paysages de marine savamment ordonnés, comme des théâtres, très, avec un subtil équilibre, mais un peu né de l'imagination aussi du peintre. Alors que les romantiques, systématiquement, nous emmènent au plus près du drame. En général, le bateau en danger occupe toute la surface de la toile. C'est tout le temps la même dramaturgie aussi qu'on voit se décliner au fil des toiles. Une vague menaçante, plus d'horizon, le ciel et la mer qui se confondent. Du drama à n'en plus pouvoir. C'est un peu le blockbuster avant le cinéma, à grand renfort d'effets spectaculaires, puisqu'il fallait marquer les esprits au salon, forcément. Donc on a deux grandes toiles de Théodore Gudin, peintres de la marine, qui sont des dépôts du Louvre, donc qui étaient intégralement restaurés pour être présentés dans le musée. Et ce qu'on fait aussi, c'est aussi un écho avec ce que peut-être les visiteurs, avec des choses avec lesquelles le visiteur est peut-être plus familier, notamment le cinéma, où on a recréé un peu un film avec plusieurs extraits de Méliès jusqu'à aujourd'hui, et qui montre aussi à quel point cette scène de naufrage, ces scènes de tempête sont des topos qu'on retrouve dans toutes les créations, jusqu'au cinéma aujourd'hui, qui a récupéré à son compte aussi cet imaginaire-là, de la mer violente, de la mer menaçante, et tout ça pour faire expérimenter aux spectateurs le sublime, le frisson délicieux, celui qu'on ressent, cette crainte de l'engloutissement, alors qu'on sait pertinemment qu'on est tout à fait à l'abri. Et donc on peut juste en profiter et se faire peur, et profiter du spectacle.
Bah bon, on va laisser la parole à un spécialiste des risques naturels. Alors il est volcanologue, oui bien sûr, oui, mais il explique ici combien la mer peut être dangereuse et mystérieuse, c'est Haroun Taziev.
Cette expédition que Louis XVI avait personnellement ordonné, soigné, mis sur pied, commandé par la Pérouse, cette expédition qui avait commencé sous des auspices extrêmement favorables, s'est terminée par une catastrophe totale.
La disparition pure et simple.
Disparu, mais vraiment, ça a été le plus grand...
Des deux frégates de tout l'équipage.
De tout le monde. Ça a été le plus grand mystère maritime du siècle. Et pendant 40 ans, on n'a pas su ce qu'étaient devenus ces deux navires. Lorsque, en 1826... un Américain, Peter Dillon, un capitaine qui naviguait par là, a par le plus grand hasard retrouvé le lieu du naufrage. L'année suivante, Dumont d'Urville a été envoyé à ramener des restes de cette expédition. Et après Dumont d'Urville, et pendant un siècle et quart, on n'a pas réussi à retrouver l'épave que Dumont d'Urville avait vue et visitée. Et ce n'est que l'an dernier, en mars 58, que le gouverneur Antonioz a réussi une expédition personnelle, privée, a retrouvé l'épave enfouie sous un mètre de corail. C'est pour ça qu'elle avait disparu.
Nous étions en 1959 en évoquant la Pérouse. Vincent Comprenon, mais alors, il faut déjà rappeler ce que c'est que cette expédition.
Alors, c'était une expédition incroyable, mais je voulais juste d'abord dire que c'est très émouvant d'entendre Haroun Taziev. Évidemment, j'étais pas né en 1959, et ce qu'il dit est toujours d'une permanence incroyable. Ce mystère dure toujours, et c'est ça qui fait de la Pérouse ce héros du musée. Parce que c'était un homme incroyablement humaniste, c'était une expédition non conquérante lancée par Louis XVI. Là aussi, Louis XVI était pas comme Louis XV, même s'il a été plus présent sur les questions maritimes, mais c'est lui qui a voulu lancer, à la suite de James Cook, des trois grandes expéditions de Cook, compléter ces expéditions sur le plan de la rencontre de l'autre, de la découverte et de la géographie de nouvelles terres, de nouveaux peuples, installer tant qu'on peut aussi peut-être quelques circuits commerciaux. Enfin voilà, il s'agissait de compléter et il a lancé en 1785 le meilleur des officiers de marine de l'époque, Jean-François de la Pérouse, partir avec deux bateaux dans cette grande expédition autour du monde. Il part de Brest en août 1785 et en 1788 il disparaît, et ce qui a lancé cette série d'expéditions jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Dans la marine, on dit toujours que la marine n'abandonne jamais l'un des siens. Ça a été le cas jusqu'en la dernière expédition en 2008.
Donc on sait où la Pérouse a disparu.
Alors aujourd'hui, on le sait, il y a un homme, il y a plein de gens importants, Haroun Taziev s'en est intéressé, l'amiral de Brossard dans les années 60, et puis depuis les années 80, un homme extraordinaire qui est hélas disparu dans des conditions assez mystérieuses, peut-être un peu comme la Pérouse. Il était passionné de la Pérouse, il est en Nouvelle-Calédonie, il s'appelle Alain Conant. Il a créé l'association Salomon, et il n'a eu de cesse de rechercher le mystère de la Pérouse. Que sont-ils devenus? Que s'est-il passé? Y a-t-il eu des survivants? Où sont-ils partis? Est-ce que la Pérouse a survécu? Voilà, 8 expéditions jusqu'à sa mort il y a quelques années. Et les 4 dernières, les plus importantes, on a réussi à prouver qu'il y avait eu des survivants sur l'île de Vanikoro, le camp de survivants. On a retrouvé un squelette qui est incroyable. Arun Taziev parlait d'un mètre de corail. Aujourd'hui, c'est plusieurs mètres de corail. Et on a retrouvé un squelette entier qui est aujourd'hui enterré dans la cour du château à Brest, au pied du musée, et qui fait partie du musée. Et on lui a rendu les honneurs militaires. Et ensuite, on a retrouvé des instruments de navigation qui ont permis de savoir exactement où a coulé l'astrolabe, où a coulé la boussole. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette grande recherche de ce mystère. C'est extraordinaire d'avoir un mystère de l'histoire qui dure encore. Les Français sont passionnés. Je me souviens, dans la dernière émission de Thalassa, ils avaient demandé quel film ils souhaitaient, quel documentaire ils souhaitaient représenter. Et tous les spectateurs ont dit, on veut les films d'Yves Bourgeois, celui qui a fait 4 films sur l'expédition. Et voilà, c'est toujours la Pérouse, et la Pérouse, on lui rend honneur. Il y a son buste, auquel je pose très respectueusement le matin. Il est au cœur de la vague, tous les objets qui ont été remontés. Voilà, c'est une passion personnelle, mais c'est maintenant aussi le héros du musée. C'est un héros de l'histoire de France. C'est de la belle histoire de France. C'est le siècle des Lumières qui s'exporte, qui a un peu commencé comme Duhamel du Monceau. C'était déjà le début. Ces savants qui veulent tout savoir. Voilà, c'était un homme extraordinaire, beaucoup de valeurs très fortes, de courage, d'audace et, je le répète, d'humanisme. Et on continue les recherches. Je suis en train de continuer avec Madame la maire d'Albi, Madame Guiraud-Chomeil, de créer un espace international de recherche et de présentation sur la Pérouse pour continuer à percer le mystère La Pérouse.
Avez-vous des nouvelles de Monsieur de La Pérouse? Une des dernières phrases attribuées au roi Louis XVI avant
son exécution. C'est ce qu'on dit, on n'a jamais pu vérifier, mais c'est une belle phrase.
C'est une très belle phrase. Clémence Laurent, c'est l'occasion aussi d'évoquer la place laissée à l'archéologie dans le musée de la Marine, parce que tout ce que nous disons là, bah oui, ce sont des naufrages, des épaves, et donc des archéologues.
Oui, alors on a pu développer une séquence en collaboration scientifique avec le DRASM, qui est le département en recherche archéologique sous-marine et subaquatique, qui dépend du ministère de la Culture, avec qui on a vraiment travaillé depuis 2018 pour sélectionner les objets à montrer, donc que des dépôts du DRASM. On a développé aussi avec leur aide des dispositifs de médiation qui vont permettre aux visiteurs de mener ses propres enquêtes archéologiques, des vraies enquêtes qui ont été menées. Par exemple, une lanterne qui a été remontée d'une épave non identifiée, et en travaillant sur cette lanterne, ils ont pu identifier une pastille de fabricant. Ils sont allés chercher dans les archives du fabricant, ils ont retrouvé son livret de commande, et en remontant le livret de commande, ont découvert la commande du Bonaparte auprès de cette entreprise pour créer une lampe fanale. Donc un petit objet qui pourrait paraître très dérisoire a quand même eu une très grande importance pour identifier enfin l'épave. Donc voilà, on a pu développer ça avec le DRASM, et surtout aussi montrer tout l'enjeu de l'archéologie de demain, l'archéologie des abysses, aller toujours plus profond, toujours plus loin, conserver aussi tout ce patrimoine immergé voué à la disparition, notamment toutes les épaves métalliques qui sont rongées par des bactéries. Enfin voilà, on sait que d'ici 200 ans, ces épaves auront disparu. Et donc il y a eu tout un, notamment sous l'égide de Michel Lourd, un développement de nouvelles technologies, nouveaux robots, nouveaux systèmes de stockage de données, d'éclairage, puisqu'à 1000 mètres de profondeur, il fait nuit.
Fait
nuit, exactement. Voilà, et c'est passionnant, c'était vraiment passionnant de travailler à leur côté.
Oui, un mot sujet, parce que peut-être que nos éditeurs ne savent pas tout dans le rôle du musée, la place de la recherche. C'est extrêmement important pour arriver à retrouver pas seulement l'histoire de l'objet, mais ça donne toute sa dimension historique, sociale, pédagogique. Et le musée a un centre de recherche justement autour de ses collections qu'on est en train de développer à l'international. Et on continue avec d'autres organismes comme le DRASM. C'est une fonction essentielle. C'est pas seulement l'acquisition, la présentation, c'est aussi la conservation, bien sûr, mais aussi la recherche. Et nous avons au musée un chercheur du CNRS, Eric Ritt, qui est une sommité dans son domaine.
Et pour terminer, Vincent Campredon, évoquons aussi l'importance de la transmission, tous ces gamins dans ce musée. Mais quelle joie de voir leurs yeux qui brillent devant tous ces modèles, ces maquettes, et puis tout ce qui est mis en place pour la médiation. C'est un vrai bonheur, hein.
Ah, c'est plus qu'un bonheur, c'est une joie profonde. Depuis 4 jours que le musée est ouvert, mais de voir tous ces publics, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition qu'on puisse imaginer, surtout qu'on a ouvert le musée à tous les publics, les gens qui viennent pas forcément au musée parce qu'ils ont pas envie, parce qu'ils savent pas, mais ils sont comme des enfants. Et moi, je suis tous les jours comme des enfants, comme un enfant depuis 8 ans.
Eh ben merci vivement à tous les deux, Vincent Comprodon. Et je rappelle, hein, Le Voyage en mer, c'est que vous publiez chez Grasset, qui est un voyage aussi à travers une existence qui nous fait comprendre cette histoire du musée de la marine et votre histoire aussi. Merci beaucoup à vous, Clémence Laurent. Donc je pense que là, tout le monde a mis les cirés, les bottes et est prêt soit à aller voir la mer, et si c'est pas possible, et moi je l'ai reçu en retour sur l'évocation de cette émission, des gens qui ont dit, moi je pouvais pas aller voir la mer en vacances, mais j'allais au musée de la marine et c'était déjà le voyage. Merci vivement à tous les deux.
Merci Xavier.
Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de transmettre notre passion qui nous anime jour et nuit.
Eh bien, nous l'avons entendu, la passion continue pour nous. Avec Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
Voilà les gars de la marine. Quand on est dans l'école nue, on n'a jamais froid aux yeux.
Pourquoi des tirailleurs sénégalais furent-ils enfermés dans des camps de travail à l'époque coloniale ? Même si tout le monde connaît aujourd'hui le rôle que les tirailleurs sénégalais ont joué lors des 2 guerres mondiales, peu de gens savent que, dans toute l'Afrique occidentale française, qu'on appelait l'AOF, le recrutement militaire était composé de 2 ensembles. Les hommes qui faisaient partie du premier ensemble étaient appelés à rejoindre l'armée, mais le second ensemble était considéré comme une réserve de soldats. Le décret du 31 octobre 1926 contraignit les réservistes mobilisables à servir pendant 2 années comme travailleurs sur les chantiers publics de la colonie. Cette décision administrative plaça ces réservistes dans une position ambiguë, car il s'agissait de travailleurs recrutés dans un contingent militaire, mais qui dépendaient d'employeurs civils. Sans précédent en métropole, ce service civil à caractère militaire fit partie des instruments ordinaires de maintien de l'ordre qu'utilisèrent les autorités coloniales pour encadrer et discipliner les populations dites indigènes. Cette innovation avait aussi pour but de contourner les recommandations de la Convention sur le travail forcé adoptée par le Bureau international du travail en 1930. On constate néanmoins que le recours à ce type d'enrôlement fut assez rare dans les années 1930. Le nombre des recrues ne dépassa pas 500 travailleurs et la majorité d'entre eux furent utilisés pour la construction de la ligne de chemin de fer Dakar-Niger. Mais le dispositif fut brutalement réactivé au début des années 1940 par le régime de Vichy qui en fit un levier essentiel pour mobiliser la main-d'œuvre coloniale. Ce sont plus de 3000 hommes venus de toute l'AOF qui furent alors mobilisés pour travailler sur les nouveaux chantiers ouverts principalement dans la circonscription de Dakar. Regroupés dans des camps de travail, ces recrues vivaient dans des conditions misérables. L'insalubrité et les violences quotidiennes causèrent un grand nombre de décès. Mais il semble que le motif principal qui poussa ces recrues à la révolte fut d'un autre ordre. Ces travailleurs ne supportaient pas l'inégalité de leur statut comparé à ceux qui avaient rejoint l'armée. Leur contestation se focalisa sur la question de l'uniforme de soldat, ce symbole de prestige et d'appartenance auquel ils n'avaient pas accès alors qu'ils se considéraient comme des tirailleurs de plein droit. Ce sentiment d'injustice provoqua des formes de refus et des mouvements d'indiscipline divers. Désertion, ralentissement de la cadence, maladie feinte, refus de recevoir la paye, voire même des arrêts collectifs de travail. Bien que le régime républicain ait été rétabli en 1944-45, cette forme de travail forcé ne fut pas immédiatement abolie. Néanmoins, la reconfiguration de la politique coloniale après la guerre, les discours officiels sur le respect de la dignité et sur la construction d'un avenir commun donnèrent plus de poids aux revendications de ces tirailleurs-travailleurs sénégalais. La forme de travail forcé à laquelle ils avaient été soumis depuis les années 1920 fut définitivement supprimée au début de l'année 1950.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Sofiane Aktib. Émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Tosiane Vudès, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.